Bonjour à toutes et à tous, c'est Julie, vous êtes bien dans l'émission 3 en 1 sur Canal B 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Et la rue répond !
Résistance ! Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes lundi 11 mai ou mardi 12. Si vous nous écoutez en rediff, et si c'est le cas, bonne matinée à vous. Au sommaire de cette édition, Nina, tu t'es entretenue avec Clémence Morinière.
Clémence est réalisatrice et elle est en train de terminer un film qui s'appelle Mathilde est députée. Et la Mathilde en question, elle est ouvrière agricole, c'est Mathilde Ignet qui est députée de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine depuis 2022 et c'est la seule ouvrière agricole à avoir jamais été élue à l'Assemblée nationale. Le documentaire suit ses premiers pas dans la politique, il manque quelques milliers d'euros à ce film pour pouvoir voir le jour et du coup je vous en parle dans cette émission.
Et en fin d'émission, vous entendrez un reportage de Manon sur l'Arche l'Olivier de Bru.
Exactement, il y a quelques semaines, je me suis rendue dans le foyer Oudayan de l'Arche l'Olivier, où logent des accueillis, donc qui sont des personnes porteuses de handicap mental, des soignants et des services civiques y vivent, ainsi que des étudiants. Et justement, un étudiant et une étudiante m'ont parlé de leur expérience.
Et ce sera donc un reportage à retrouver aux alentours de 12h40. Et en attendant Manon, tu restes en plateau et tu enfiles de nouveau ton sifflet et ton maillot d'arbitre.
Et oui, encore une fois, je vais parler de football, et encore une fois, ça sera pas très positif. Déjà, Julie, est-ce que tu savais que mercredi 6 avril a eu lieu la dernière journée de D1 Arkema, donc la première division de football féminin française ?
Bah non.
Eh bien écoute, moi je l'ai appris à 16h30, le jour même, en voyant les compositions d'équipe du match entre les Marseillaises, donc l'OM féminin, et le DFCO, les Dijonnaises, et le match commençait donc à 17h. Un mercredi. Alors certes, les matchs étaient diffusés, mais en pleine semaine et surtout avec une super communication.
C'est ironique, je suppose.
Bien évidemment, Julie. Et oui, encore en 2026, les femmes jouent les seconds rôles, mais cette fois-ci, elles se rebellent. Pour recontextualiser tout ça, le football français connaît depuis quelques années, et notamment depuis la pandémie de Covid-19, des difficultés financières. Presque tous les clubs français, enfin tous sauf le Paris Saint-Germain en gros, font face à cette problématique, mais les clubs ont trouvé la solution miracle. La variable d'ajustement, les équipes féminines.
Et oui, il est tellement plus simple de supprimer la section féminine d'un club plutôt que de chercher d'autres solutions.
Dernière équipe en date à subir cette dure loi de la domination masculine dans le sport, mais pas que, l'équipe première de Dijon. Et oui, le DFCO a annoncé début avril la possible suppression de sa section féminine pour des raisons économiques. Ces mêmes raisons économiques qui ont déjà entraîné la fermeture de plusieurs sections féminines ces dernières années, comme Soyaux en 2023 ou encore Bordeaux en 2024. Et pourtant, devine Julie, à quel niveau jouent les Dijonnaises ?
Quatrième division.
Eh bien, cette saison, elles ont terminé sixième de D1 Arkema, justement, la première division féminine de football français. Et dans le même temps, le DFCO masculin est certes premier, mais de troisième division. Et ce sont les féminines qui sont, comme toujours, devrais-je dire, les sacrifiées du football français. Ce sont elles qui doivent essuyer les pots cassés d'une mauvaise gestion et de difficultés financières dont elles ne sont même pas à l'origine. Elles ne sont que rarement sur les devants de la scène et souvent poussées sur le côté.
Et pourtant, on a l'impression que le football féminin tend à se développer, non ?
Oui, en Ligue 1, donc le championnat de première division de football français, 17 des 18 clubs possèdent une section féminine. Seul le SCO d'Angers, plus petit budget du championnat, n'en a pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit une augmentation du nombre de femmes licenciées dans le football français. En 2024, en France, elles étaient plus de 250 000 en comptant pratiquantes, dirigeantes, éducatrices et arbitres. Bon, ça représente seulement 10,5% du total des licences de la Fédération française de football, mais ça évolue.
Et on espère donc qu'elles seront encore plus reconnues au haut niveau pour voir grimper ces chiffres aussi.
C'est bien qu'à l'échelle, tout ce que je peux faire, c'est du vent. C'est vrai, c'est rien, j'ai pas d'autre que du temps. Tu me laisses dans le flou, forcément, je prophétise. Y'a qu'une seule tentative, tu crois pas les choses, c'est mieux qu'on se les dise. Hein. Hein. Pourquoi c'est pas pareil quand on est deux, quand on est dix? Les classes sont encore un temps, pourtant mon verre est vidé. Y'a que les choses qu'on regarde qu'on peut trouver belles. T'as tout mélangé, j'avais mis des couleurs, t'as tout fait pêche. Le corps va comme j'ai pris tout le mais je me sens bizarre, je me sens tout moche. Je le sens là, je vais niquer toutes mes chances. Je deviens toutes mes chances, j'ai plus trois lignes, je les efface.
Toi tu dis pas les mots, tu les craches. Je salis mon cœur, je l'écorche. Le tien doit être en écorce, comme le mien est pourri des charges. Je sais pas si j'espère, si je redoute. Après la tempête, le retour, je connais le programme. Comme si je redouble, je connais le programme. Comme si je redouble, je me sens jamais moins seul quand t'arrives. Je sens jamais moins seul quand t'arrives. C'est rien, c'est comme ça, c'est la Yves. C'est rien, c'est comme ça, c'est la Yves. Dieu merci qui aime bien, châtie bien. Sinon je pourrais vite croire qu'on se déteste. Est-ce qu'on s'acharne par envie ou bien par réflexe? Peut-être que c'est l'idée, peut-être que c'est rien. Dieu merci qui aime bien, châtie bien. Sinon je pourrais vite croire qu'on se déteste. Est-ce qu'on s'acharne par envie ou bien par réflexe? Ce que t'aimes voir dans mes yeux, c'est les tiens. Dieu merci qui aime bien, châtie bien. Sinon je pourrais vite croire qu'on se déteste. Parce qu'on s'acharne pas envie ou bien pas réflexe. Peut-être que c'est l'idée, peut-être que c'est rien. Dieu merci qui aime bien, châtie bien. Sinon je pourrais vite croire qu'on se déteste. Parce qu'on s'acharne pas envie ou bien pas réflexe. Ce que t'aimes voir dans mes yeux, c'est les tiens.
C'était le titre Je sais bien de Assinine sur Canal B. Et maintenant, on retrouve Nina en plateau avec Clémence Morinière. Elle est réalisatrice du film Mathilde et députée, qui est la première femme ouvrière agricole à entrer dans l'hémicycle.
Il n'y en a que 6 parmi les 577 députés actuels en France. Les ouvriers et ouvrières constituent 1% des membres de l'Assemblée nationale, alors qu'ils représentent 18% de la société française. Aujourd'hui, la seule ouvrière agricole députée s'appelle Mathilde Ignet et un film devrait bientôt sortir sur son parcours, à condition que sa réalisatrice ne trouve les fonds pour le finaliser. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Clémence Morinière.
Bonjour.
Vous êtes autrice, réalisatrice de documentaires et vous avez été aussi par le passé ingénieur agronome, ce qui explique peut-être en partie le choix du sujet de votre film dont on va parler aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez déjà nous parler un petit peu de Mathilde Ignet? Qui est-ce? Comment vous l'avez rencontrée et surtout comment vous l'avez convaincue de faire ce film avec vous?
Alors Mathilde Ignet, donc première ouvrière agricole à rentrer à l'Assemblée nationale, je l'ai connue parce que quand j'étais ingénieure agronome et que j'ai décidé de quitter mon travail pour faire un film documentaire dont je n'avais pas encore le sujet, la personne qui m'a remplacée était en fait son compagnon. Et donc il nous parlait de sa compagne qui était en campagne à ce moment-là pour devenir députée. Et bon, c'était très très improbable à ce moment-là qu'elle réussisse à se faire élire parce que c'est donc la députée de la circonscription de Redon, donc quatrième circonscription des Yvelines, qui avait été très longtemps la terre de Alain Madelin, donc plutôt une terre de droite. Donc c'est vrai que pour une jeune femme de gauche, c'était peu probable. Et finalement, quand elle a été élue, j'avais commencé à me former un peu au film documentaire. Et je me suis dit, ça peut être vraiment un super choix de sujet que de suivre cette aventure complètement extraordinaire.
Et comment vous l'avez convaincue de faire ce film avec vous? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il a fallu un petit peu lui sortir 2-3 arguments ou elle a tout de suite été partante?
Alors, elle n'a pas tout de suite été partante. Je pense que le fait que je sois issue du milieu agricole et que je sois ingénieure agronome et que j'ai travaillé pendant 10 ans auprès des éleveurs qui travaillent plutôt en agriculture paysanne, ça l'a convaincue. Du coup, ce qui l'a convaincue aussi, je pense, c'est moi ce qui m'intéressait de filmer parce qu'évidemment, les gens, surtout en politique, peuvent être assez méfiants puisque quand on fait un film sur eux, c'est leur image publique qu'on transmet. Et moi, je l'ai vraiment convaincu en lui disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler d'engagement politique quand on n'est pas a priori fait pour ça et que de montrer en fait que la politique peut être l'affaire de tous et de toutes et de montrer en fait que ton parcours peut-être en inspirer d'autres, de femmes, de jeunes, d'ouvrières. Et je pense que c'est ça qui l'a convaincu et c'est ça qui l'a poussé à me dire oui.
De se dire que peut-être elle allait inspirer d'autres personnes. Aucun autre ouvrier agricole n'a été à l'Assemblée avant 2022. Il y a des agriculteurs exploitants, mais qui sont probablement plutôt des patrons de petites entreprises. Comment Mathilde, elle vit cette pression-là? Comment on le voit dans votre film?
Alors, sans trop spoiler, puisque en fait, mon film va raconter comment une ouvrière agricole vit le fait de prendre ce costume de députée qui paraît taillé un petit peu grand quand on démarre. C'est une évolution qui est très progressive, c'est-à-dire que c'est fait de beaucoup de doutes, de beaucoup de sentiments d'illégitimité, c'est-à-dire le sentiment de l'imposteur que Mathilde avait beaucoup au départ. Je pense qu'elle l'a toujours, mais elle a réussi à le surmonter avec de l'apprentissage. Et justement, on va voir dans le film qu'est-ce qu'elle met en place pour réussir à surmonter ce sentiment d'imposteur. Elle est accompagnée, elle n'est pas toute seule, elle travaille énormément. C'est vraiment le fruit de beaucoup de travail, le fait qu'elle arrive à prendre la parole en public sans hésiter, sans s'excuser aussi d'être là. Il y a vraiment ce truc de... quand on est issu du sérail, on se dit, c'est bon, je peux prendre la parole, j'ai le droit. Et au départ, elle, c'était vraiment ça qui était sa particularité, c'est qu'elle ne se sentait pas légitime de prendre la parole vu d'où elle venait et vu son manque d'habitude et d'expérience à prendre la parole en public.
Dans un extrait du film, il y a quelques petits extraits du film qui n'est pas encore finalisé, dont on en parlera plus tard. Vous pourrez le retrouver sur la page d'une cagnotte que vous avez établie pour essayer d'aller au bout de cette production. Dans un extrait du film, on entend Mathilde dire « Il y a des gens qui m'observent. Quand j'ai été élue, ils se sont dit « Vu d'où elle vient, elle ne va jamais y arriver ». Comment on voit ça à l'écran ? Est-ce qu'on voit des invectives, des personnes autour d'elle qui ont un peu cette défiance et qui la portent ?
Non, c'est plutôt elle qui en parle, parce que vous vous imaginez bien que quand on est avec une caméra de documentaire, évidemment, les gens savent qu'ils sont filmés. Hein. On n'est pas dans l'idée de faire un film en caméra cachée. Donc forcément que notre présence induit des choses. Alors après, le temps long a fait que moi, j'ai réussi à avoir des échanges qui font presque oublier les caméras, c'est-à-dire des échanges très très spontanés avec Mathilde, parce que Mathilde, j'ai passé 3 ans avec ma caméra avec elle, et de toute façon le film documentaire nécessite ce temps long pour réussir à obtenir la confiance du personnage qu'on suit, et surtout de induire en fait vraiment de la confidence et un lien qui s'opère entre nous qui se retransmet à travers ma caméra. Les invectives, finalement, elles se ressentent plutôt dans les échanges, certains échanges de l'Assemblée nationale qui sont dans le film, notamment avec le ministre de l'Agriculture par exemple, où on voit qu'il y a un rapport de force qui se monte, et il y a aussi un rapport de force avec certains agriculteurs, notamment des agriculteurs qui sont dans une agriculture plutôt conventionnelle et qui essayent de se défendre face aux lois que porte Mathilde pour défendre l'agriculture paysanne. Et donc ça, on le voit aussi.
Ce sera une partie importante des images qui seront à l'écran. Quelles questions vous vous êtes posées, vous ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous n'aviez pas anticipées, justement sur comment retranscrire au mieux le parcours de Mathilde sur ces plusieurs années ?
Oui, alors j'avoue que j'ai eu, je dirais pas que des difficultés, mais en fait un premier film documentaire, de toute façon tout le monde vous le dira, c'est très difficile. Moi j'ai l'impression que mon travail d'ingénieur agro à côté, c'était vraiment très simple par rapport au fait de réaliser un film, parce que tout est difficile en fait, il y a pas d'argent, c'est un secteur artistique qui n'a pas de financement ou très peu par rapport à d'autres secteurs, même par rapport au cinéma de fiction. Donc sans argent, de toute façon, on fait pas grand chose. On est très seul. Donc, en tant que réalisateur, réalisatrice, moi, j'ai fait tout sur mon film, quasiment. C'est-à-dire que j'ai fait l'écriture, la réalisation, la préparation des tournages et l'organisation, la préparation du matériel, le son, l'image. Enfin, on a énormément de choses à porter sur nos épaules. Et je pense que ce que j'avais pas anticipé, c'était la relation. En fait, la relation à Mathilde, parce que moi, je suis partie en me disant, je vais être avec elle, je vais la suivre, etc. Mais c'est normal, en fait, quand on a quelqu'un qui nous suit tout le temps avec une caméra, en fait, c'était difficile aussi pour elle de m'accepter dans des moments où elle était des fois fragile, dans des moments où elle craquait, dans des moments où elle était avec d'autres personnages publics, d'autres députés qui, eux, n'avaient rien demandé, avec son équipe aussi, qui n'avait pas demandé à ce que je sois là. Et donc, le fait, elle avait l'impression, des fois, de m'imposer aux autres alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et comme elle a ce sentiment un peu d'imposteur et d'illégitimité, ça rajoutait encore une pierre de plus à ça. Et ça, c'était difficile pour elle. Et puis, ce qui a été difficile, en fait, c'est aussi moi, que je sois sûre de ce que je fais. Pendant très longtemps, le tournage a duré plus de 3 ans. Pendant très longtemps, je ne savais pas du tout si je pourrais sortir le film. Donc, quand on accumule les heures passées avec une députée qui a largement autre chose à faire et qu'on n'est pas en capacité de dire oui, le film va sortir à un moment, il y a un moment où on commence à accumuler, à se dire mais en fait, si le film sort pas, là j'aurais pris de son temps pour rien. En tout cas, ce sera l'objet des projections débats où je pourrais raconter aussi comment on arrive à filmer à l'Assemblée nationale une députée d'un camp qui n'est pas forcément très appréciée à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ça m'a mis aussi des bâtons dans les roues à ce moment-là. Voilà, je pourrai en parler plus longuement pour ceux qui viendront voir le film.
C'est un petit teaser pour les projections débats alors.
Toujours sur 3 en 1, à l'instant vous écoutiez You Are My Fatal Blow de Lyric sur le 94 FM. Tout de suite on retourne en plateau avec Nina pour la deuxième partie de l'interview de Clémence Morinière. Elle est la réalisatrice du film Mathilde et députée, la première femme ouvrière agricole à entrer dans l'hémicycle.
Un autre point qui ressort des quelques images qu'on peut voir actuellement du prochain film, du film à sortir, c'est que Mathilde souhaite représenter les invisibles, elle en parle comme ça. Comment elle s'y prend, elle, pour articuler cela avec le programme de la France Insoumise ? Est-ce que ça aussi, ça a été une partie importante de ce que vous avez filmé ?
Alors, finalement, c'est pas une partie si importante que ça de ce que j'ai filmé, c'est-à-dire le lien avec les ténors du parti, parce que à ma grande surprise, je me suis aperçue que sur le sujet agricole, en fait, le groupe parlementaire lui a fait énormément confiance. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'échanges avec les ténors du parti, etc. Alors, après, on la voit dans mon film, hein, y a une séquence où elle est en réunion parlementaire avec l'ensemble des députés LFI, et en fait, très vite, elle prend le lead sur le sujet agricole. Ils sont quatre chefs de file à la France Insoumise sur le sujet agricole. Et Mathilde, en fait, prend le lead aux côtés d'Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé qui est beaucoup plus connue, hein, qui est une personnalité ingénieure agronome qui a bossé chez Attac pendant des années. Donc, qui a plus le profil politique parce qu'elle a fait des études supérieures, etc.
Pour faire tout cela, pour tourner toutes ces images, vous avez pris votre caméra, vous avez suivi pendant plus de trois ans, Mathilde, entre l'Assemblée nationale et sa circonscription. Concrètement, qu'est-ce que ça a représenté pour vous en termes d'heures de travail, de membres d'équipe à trouver en écriture, en tournage ?
Alors, en heures de travail, ce serait difficile à quantifier. Moi, je peux plutôt vous parler en années. Du coup, ça m'a pris un an en d'émergence du projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les repérages. Donc, aller sur le...
tourner.
Alors, si, en tournant, mais en tournant des images qui sont plutôt un peu conservatoires, c'est-à-dire que c'est pas encore forcément les images définitives du film. C'est-à-dire qu'on se teste, on voit ce qu'on peut tourner, pas tourner. On teste aussi notre relation au personnage avec la caméra. Et surtout, on écrit le film. C'est très important et ça paraît un peu étrange à beaucoup de gens. Donc moi, j'ai été accompagnée sur cette phase-là puisque je suis pas dramaturge ni autrice à la base. J'ai fait une formation à la FEMIS en écriture documentaire et j'ai aussi été accompagnée par une script doctor. Ce qu'on appelle un script doctor, c'est quelqu'un qui est un peu consultant en scénario et qui va venir nous aider à écrire vraiment notre propos et à le retransmettre en séquence de cinéma. Donc ça, c'est la partie écriture. Ensuite, il y a toute la partie tournage qui m'a pris 2 ans. Alors évidemment, c'est pas 2 ans à temps plein. Bah, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait à peu près 60 jours de tournage. Donc on va dire 2 mois pleins. Mais pour une journée de tournage réalisée, il y a peut-être 2 jours de préparation. Donc il faut rajouter ce temps-là.
Le film devrait sortir à l'automne. En tout cas, c'est votre souhait. Il vous manque des fonds aujourd'hui pour le montage et la post-production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui les modalités du financement du cinéma sont telles qu'on peut se retrouver avec des films dont on a déjà tourné les images, mais auxquels il manque encore du budget?
Alors, c'est surtout une différence entre le temps long de l'obtention des financements et le temps très court, des fois, de l'urgence de tourner un sujet. Moi, je voulais pas tourner un film avec quelqu'un qui démarre en politique et qui prend un costume un peu trop grand pour elle au départ. 3 ans après l'investiture, parce que du coup, 3 ans après, Mathilde, ça y est, c'est devenu une femme politique. Alors, dans un certain sens du terme, ça reste quelqu'un auquel on peut complètement s'identifier parce qu'elle est comme nous, entre guillemets. Mais évidemment que ses débuts, moi, c'est ce que je voulais, c'était ses débuts et le fait de prendre en charge le sujet agricole dans le cadre d'une loi d'orientation agricole qui était débattue en 2024. Donc, il fallait que j'y aille. Et sauf que le temps d'obtenir des financements en documentaire, c'est 1 voire 2 ans, le temps d'écrire, de faire des premières images, de faire un teaser, d'aller convaincre des diffuseurs, d'aller convaincre aussi les financeurs publics, donc le CNC, la région Bretagne, etc. Et donc, bah, en fait, si j'attendais, il n'y aurait pas de film. Donc j'y ai été, donc j'ai commencé à tourner avec les moyens que j'avais, j'ai accumulé des images et en fait on a vraiment fonctionné chemin faisant. Il faut trouver un producteur aussi, donc ça c'est très très important. J'ai eu un premier producteur qui m'a lâché assez vite devant l'ampleur du sujet qui était très difficile à produire puisque sujet politique, donc on sait bien que certains sujets politiques aujourd'hui sont plus difficiles à tourner que d'autres. Donc j'ai dû retrouver un deuxième producteur, donc ça a été encore une embûche supplémentaire et donc au fur et à mesure j'ai quand même réussi à obtenir des aides publiques sur l'écriture de mon film, des aides qui étaient très difficiles à avoir, donc ça a été quand même un soutien à ce moment-là. Et à partir de ces premières aides qu'on a pu obtenir, notamment du CNC, bah là j'ai pu mettre un peu d'argent dans une équipe de tournage et effectivement qu'on a décidé avec mon producteur de flécher sur des jours qui étaient très importants, qu'on ne pourrait pas refaire et où il fallait vraiment que je sois épaulée parce que là j'avais pas le droit à l'erreur sur le son ni sur l'image, quoi.
Vous venez de dire que votre premier producteur vous avait lâché parce que le film était trop politique. À ce jour, il n'y a pas de télévision qui soutienne également le projet. Est-ce que vous pensez que c'est aussi parce que c'est un sujet éminemment politique ?
Oui, c'est sûr. On nous l'a dit. Hein. On nous l'a dit. Là où c'est assez intéressant, cette langue de bois, entre guillemets, c'est que toutes les télés qu'on a été voir, on a toutes été voir. Télé associative, télé chaîne régionale, donc toutes les chaînes régionales de Bretagne, télé nationale, on a été voir tout le monde. Tout le monde nous a dit un portrait politique, on ne peut pas, c'est trop compliqué. Maintenant je prends à partie les auditeurs. Dites-moi si on ne voit jamais de portrait politique à la télé. Il y en a eu cet été, on a fait une petite veille avec mon producteur. Il y a eu un 3x52 minutes sur Gérald Darmanin. Là récemment, il y a un 52 qui est sorti sur un élu écolo. Enfin. En fait, il y a aucun problème. Donc, on sait que c'est une embûche de plus, mais ça, en fait, ce n'est pas interdit. Donc, il aurait très bien pu sortir sur une chaîne de télé si quelqu'un avait eu un autre regard que celui du prisme de la couleur politique qui, en fait, c'est pas du tout le sujet principal de mon film. Et là où moi, je trouve qu'il y a une responsabilité des responsables politiques qui prennent les décisions quand il y a des films qui sont aidés et aussi des chaînes de télé qui sont, voilà, qui peuvent décider de leur ligne éditoriale, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fossé entre la représentation politique et les citoyens. Et pour moi, on doit montrer ces portraits de gens qui nous représentent au mieux, puisqu'ils sont élus. Voilà, c'est des gens qui sont comme nous, qui sont issus de la population, qui sont ouvriers, donc ils représentent les leurs. C'est vraiment une question de la représentation. Et pour moi, pour restaurer la confiance, il faut montrer des gens qui sont comme ça et qui ne sont pas des gens qui sont totalement déconnectés du terrain ou qui n'ont jamais travaillé, donc qui connaissent connaissent pas la réalité du travail. Enfin, et du coup, moi, ça me semble essentiel de montrer ce type de portrait, surtout de femmes, surtout de jeunes, parce que c'est vraiment ce dont on manque aujourd'hui en politique et on en a besoin.
Donc, j'allais vous demander effectivement pourquoi pour vous c'était important de parler de ce sujet maintenant et notamment à l'aune des présidentielles l'année prochaine, mais vous y avez déjà répondu. Peut-être pour résumer un petit peu finalement, est-ce que votre film, il parle de lutte des classes, il parle de sexisme, il parle de politique politicienne ? C'est quoi le sujet principal ?
Non, il parle pas de sexisme, il parle pas de politique politicienne, c'est plutôt l'autre prisme, le prisme positif, c'est-à-dire, c'est pas du sexisme, c'est quand on est une femme, on peut accéder à des postes de responsabilité en politique, on peut porter la voix des autres et c'est possible parce que Mathilde le fait et je vais montrer dans mon film comment elle y arrive, qu'est-ce qu'elle met en place pour ça. Le sujet principal, en fait, c'est plutôt comment on mène un combat politique pour représenter des invisibles qui sont en l'occurrence là les paysans qui pratiquent une agriculture paysanne. C'est vraiment le sujet principal et c'est comment on arrive à faire porter un combat sur la scène publique quand on est soi-même concerné par ce combat et qu'est-ce que ça vient chercher en termes de ça vient chercher en l'occurrence pour Mathilde dans les tripes et comment elle arrive à combiner ça avec sa personnalité. C'est vraiment le sujet.
Et sa vie et son parcours. Et en ce moment, elle doit être bien occupée avec la loi d'urgence agricole qui est en train d'être examinée par les députés. Et aussi, il me semble qu'elle avait posé une question sur le sage-vilaine qui est actuellement bloqué par le moratoire sur les décisions liées à la politique de l'eau et également la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Si vous voulez contribuer à ce projet, à ce film Mathilde est députée et porter du coup à l'écran le parcours de Mathilde Digné, la seule ouvrière agricole députée à l'Assemblée nationale et ce depuis 2022, vous pouvez vous rendre sur la plateforme ProArty et taper les mots-clés Mathilde des députés. Il me semble que vous trouverez toutes les informations sur ce film dont il manque une petite partie du budget pour pouvoir être réalisé et sortir sur les écrans d'ici fin 2026, début 2027.
Ça dépendra de à quel moment on obtient les fonds. Là, il ne reste plus grand-chose. Donc moi, je veux vraiment inciter les gens qui sont sensibles au sujet à venir contribuer parce qu'il nous manque plus que 6 000 euros. Donc ce n'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup. C'est ça qui nous permettra de sortir le film. Donc je vous incite vraiment, si vous avez envie, à vous rendre sur la plateforme. On espère la sortie pour l'automne 2026.
Merci beaucoup Clémence Morinière d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Il y a quelques semaines, Manon s'est rendue à l'Arche Olivier de Bru, et plus particulièrement dans le foyer Oudayane, où logent notamment des personnes atteintes de handicap mental, ainsi que des soignants. Entre la chasse aux œufs et la préparation du repas, Manon a pu échanger avec un étudiant Sébastien et une étudiante Charlotte.
Donc ça c'est le foyer Oudayane, voilà.
Oudayane, c'est l'un des 5 foyers de l'Arche Olivier, une association située à Bru. Le but de ces foyers, créer des colocations inclusives entre soignants et personnes touchées par un handicap mental, comme l'autisme ou la trisomie, qu'on appelle les accueillis. Mais il y a aussi des étudiants logés gratuitement contre présence. Sur les murs du foyer Oudayane, beaucoup d'informations et de tableaux, des photos des habitants et habitantes du foyer avec leur nom. Et ce, pour permettre à toutes et à tous de s'organiser et de vivre ensemble.
Bah, tu arrives au moment de la chasse aux œufs.
Charles, t'as trouvé ?
Non, mais pas le mien.
C'est moi qui ai caché ton paquet. C'est moi qui ai caché.
Tout le monde participe à cette activité, notamment Sébastien, étudiant béninois, qui vit dans le foyer Oudayane depuis 3 ans. Pour lui, c'est un vrai choix de sa part que de vivre aux côtés des personnes accueillies.
Ici, on est en communauté. On se connaît, on s'aide, on se soutient. Le fait de vivre avec des personnes en situation d'handicap, de pouvoir les aider, c'est une expérience qui me permet de faire des découvertes, d'en apprendre davantage sur le monde de l'handicap. C'est vraiment un brassage culturel de toutes les nationalités, de toutes les cultures, que ce soit musulman, que ce soit chrétien.
La préparation du repas, c'est l'un des moments pendant lequel l'étudiant ou l'étudiante inscrit dans le planning peut participer aux tâches en cuisine. Et au menu de ce soir, ce sera des lentilles corail avec du riz. Charlotte, étudiante, vit dans le foyer Oudayane depuis septembre et nous explique le rôle que jouent les étudiants et étudiantes dans les foyers.
Notre engagement, c'est qu'on doit participer à au moins un repas par semaine. Moi, c'est le mercredi soir. Donc, quand j'arrive, j'aide à préparer le repas si besoin. S'il y en a qui ont envie de discuter, je discute avec eux. Enfin, le principe, c'est qu'on doit être présent pour les personnes. Et pour les nuits, on a un planning et on tourne entre les trois étudiants. Quand il n'y a pas assez d'étudiants, c'est une des personnes qui travaille ici qui fait des nuits. Une nuit basique, ça va être qu'à 21h30, on va faire le check-up des personnes qui sont accueillies. Nous, notre rôle, c'est plus d'être présent de nuit au cas où. C'est pas de nous occuper des personnes, ça va être plutôt le rôle du veilleur. Le fait de pouvoir dire au revoir à tout le monde quand on part et bonjour, je suis rentrée quand on arrive, je trouve ça hyper agréable. Et moi, j'en retire une très très bonne expérience.
Même si Charlotte a passé de très bons moments à Udayan, elle va bientôt quitter le foyer. La raison, le temps de trajet assez conséquent chaque jour entre Bru et son université à Villejean. Et pour Sébastien, ces moments de revoir ne sont pas rares. Et c'est un peu le seul point négatif qu'il ressort de ce système de cohabitation inclusive.
J'ai appris avec le temps à me séparer des gens. J'ai vu plusieurs personnes passer. Du coup, à des moments donnés, tu t'attaches à des personnes et après tu te rends compte que le chemin s'arrête là. Ils sont appelés à quitter, à mener d'autres aventures.
Sébastien, lui, se voit rester encore quelques temps à l'Arche. L'Arche, c'est 40 communautés en France, pour un total de 1900 personnes en situation de handicap logées. Et pour ce qui est des étudiants et étudiantes, le système mis en place à l'Arche L'Olivier à Bru tend à se développer.
Merci Manon pour ce reportage. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Clémence Morinière d'avoir répondu à nos questions. Merci à l'équipe de l'Arche Olivier et notamment à Sébastien et Charlotte. Et merci à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission, Manon, Nina et Valentine. Tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Bonne journée à vous.